Salut le vivant, ici Lynxar et Maxtor.
Depuis notre vaisseau Pintosaur, on explore tout ce qui s'agite, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Nous, notre délire, c'est de manger par les oreilles.
Alors on vient s'immiscer dans Quartier Libre pour proposer un espace dédié à la création sonore.
Exploration souterraine, pistes cosmiques ou rêveries enfantines, on va vous faire voyager dans des vies parallèles, celles qu'on n'a pas l'habitude de prendre le temps d'écouter.
Ce sera peut-être magique, sucré et espiègle, et sûrement poilu, vieux, bête et méchant.
Alors, on se disait en fait, en discutant avec Maxine, que le 14 juin, c'est bientôt, c'est dans à peu près 20 jours, un peu plus que 20 jours. Et du coup, on avait envie de commencer déjà à se mettre dans le bain. Et on s'est rappelé des trucs qu'on s'était envoyés pendant le confinement, quand on était loin l'une de l'autre, et puis qu'on avait envie de se partager nos réflexions féministes.
Ouais, et puis c'était des moments aussi où on voulait proposer des moments d'écoute à l'autre, et qu'il soit pas juste ah tiens j'ai lu ce texte telle et telle page vas-y lis-le, mais c'était genre j'ai découvert ce truc là, ça m'a bougé et du coup je te propose de... Enfin, je t'offre un moment où tu peux être bougé aussi, mais du coup, avec des sons aussi, et de la musique ou des trucs comme ça.
Mmh. Une expérience un peu augmentée de textes qu'on avait lus. Des fois, c'était fait au milieu de la nuit, parce qu'on avait des rythmes un peu décalés, et en les réécoutant, on s'est vraiment dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes ?» Mais en même temps, c'était...
En même temps, c'est des trucs très vifs, quoi. C'est justement un peu des moments où on avait besoin de sortir quelque chose, de faire quelque chose, parce que c'était aussi le confinement, et puis c'était le printemps aussi, c'est pour ça que, je sais pas, ça résonne un peu avec la période maintenant.
Ouais. Moi, je me souviens que j'étais en même temps heureuse et en colère à cette période. J'étais en colère parce que je me rendais compte que le fait d'être confinée, je me sentais très en sécurité et du coup ça a fait ressortir toutes mes peurs qui m'avaient été transmises, des peurs vraiment typiques de femme, et j'étais vraiment fâchée de ça. J'avais besoin de le sortir, j'avais besoin de le partager à ma copine.
Et moi à ce moment-là j'étais aussi en pleine révolution intérieure où je remettais tout en question, la façon dont je suis dans mes relations, la façon dont je veux me présenter en tant que femme. Voilà, du coup on s'est dit c'est bientôt le 14 juin, c'est bientôt et c'est le printemps et tout ça, donc on a refouillé, on a retrouvé tout ça et on s'est dit on va faire un truc un peu à l'arrache, un peu bricolé, comme un patchwork de ces textes, de ces ambiances et de ces réflexions qui nous ont animés.
Et ouais, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça, tout ça mis ensemble, un peu rapiécé, ça a un peu donné naissance à un mythe qui nous est propre et qui s'appellerait le mythe des femmes qui entrèrent sous terre et qui s'établirent définitivement dans le pays, dans le grand pays des femmes, situé fort loin vers l'est. Et ça s'est inspiré d'une légende Aranda, c'est un peuple aborigène australien.
Ouais. Et donc, ce qu'on propose, c'est une expérience un peu kaléidoscopique, disons, à travers aussi des textes de Monique Wittig, notamment les
guerrières.
Aussi des extraits de Révue l'Obscur de Starhawk, des extraits d'une conférence de Virginie Despentes et des paroles documentaires de personnes qui nous sont proches, notamment Non.
Ouais, et peut-être ça le fait.
Ouais, on sait pas encore.
On sait pas encore.
Puis, les femmes entrèrent sous terre, et l'on ne sut plus rien d'elles, sinon qu'elles s'établirent définitivement dans le grand pays des femmes, situé fort loin vers l'est. Sous terre, elles se disent qu'elles l'ont échappé belle. Elles reprennent leur souffle, crachent de la salive ensanglantée et se regardent les unes les autres. Elles ne savent pas par où commencer. Elles pleurent, couchées ou assises à l'écart. Le gel solidifie leurs larmes, qui brillent sur leurs joues et étincellent. Elles pleurent, leurs sanglots courbent leur corps. Par endroits, le vent pousse contre leur figure des nuages blancs poudreux. Leurs cris, leurs plaintes, leurs lamentations ne s'élèvent pas hors du bas-fond. Elles peuvent aussi bien être muettes. Leurs mains raides ne se portent pas à leurs joues pour essuyer leurs larmes ou à leur bouche pour arrêter le sang qui leur coule des gencives. Le cirque glacé dans lequel elles se tiennent renvoie tous les rayons du soleil. Les éclats de lumière semblent se détacher du sol, monter comme des flammes, trembler, passer du rouge au jaune, orange ou du rose au violet. C'est comme un cratère de volcan qui brûle, prêt à les ensevelir.
Si tu serais un animal, tu serais quoi ?
Alors, je pense que je serais un lynx, parce que j'ai une bonne vue, et puis j'aime bien la neige aussi, et j'ai l'impression qu'il se débrouille bien dans la neige. Mais je serais une femelle lynx.
Ok.
L'une d'entre elles, une petite fille nommée Rose Écarlate, commence à raconter des histoires, celles du monde d'avant. C'est un jour de grève. Les ouvrières font un piquet de grève dans le champ où les bâtiments sont implantés. Elles tournent en rond, l'une derrière l'autre, en chantant, en frappant des pieds contre le sol, en battant des mains. Elles ont des blouses noires et des écharpes de laine. Toutes les fenêtres, toutes les portes de la fabrique sont fermées. L'une ou l'autre d'entre elles porte à bout de bras une pancarte, où les mots d'ordre sont inscrits, peints en rouge sur le papier blanc. Sous leurs pieds, dans le champ, il y a un cercle de terre battue. Ou bien c'est un jour où les manifestantes avancent en tenant toutes un livre dans une main levée. Les visages sont remarquables par leur beauté. Leur foule compacte déferle sur la place, rapide quoique sans violence, portée par le mouvement interne que lui impose sa masse. D'énormes mouvements s'effectuent en divers points de la place, quand les manifestantes tentent de s'arrêter autour des groupes, d'une ou de plusieurs parleuses. Mais elles sont immédiatement poussées, entraînées par les milliers de jeunes femmes qui les suivent et qui s'arrêtent à leur tour. Malgré les perturbations que les mouvements particuliers font subir à l'ordre général, il n'y a pas de piétinement, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de course subite et forcée. Les parleuses peuvent se tenir immobiles. À un moment donné, la foule amorce un mouvement général d'arrêt. Il lui faut quelque temps pour s'immobiliser tout à fait. Là-bas, des allocutions ont commencé. Les voix dans les haut-parleurs sollicitent l'attention des manifestantes.
Et il y a 40 ans, comment tu t'imagines ? Et toi, Cécile, tu serais quel animal ?
Un soir, je voulais aller au carnaval avec mes copines. J'avais 14 ans, peut-être. Non, 12 ans. Parce qu'à 14, j'étais au collège. Et puis, ma maman, elle m'a dit, écoute, moi, je t'ai dit une chose. Un soir, une fille voulait aller. Et puis sa maman lui a dit, mais vas-y. Et puis ça tape à la porte, je te dis exactement comme c'était. Et il y a un monsieur qui est venu me rigolo, habillé en carnaval, tout. Laissez-la venir. Une fois qu'elle est sortie, on a entendu, il est volé avec la petite, elle l'a kidnappé. Là, t'es sûr que moi je bougeais plus. Hein. Voilà. Et puis...
C'était l'homme qui s'était transformé en oiseau
en diable. Et puis, j'ai pas regardé comme il faut. Il avait le pied de cheval, comme le diable. Non, écoute, je regardais dans le miroir. Regarde seulement, tu verras qui c'est qui sauve. Oh. Tu sais, quand j'habitais là-haut, je passais la forêt avec maman, qui avait 3 ans, 2 ans. Je la passais, mais seule, jamais. À jamais.
Il faut que cet ordre soit rompu.
Elle se rappelle de l'histoire de Blanche-Neige. C'est un jour où Blanche-Neige court dans la forêt. Ses pieds se prennent dans les racines des arbres, ce qui fait qu'elle trébuche à tout moment. Elles disent que les petites filles connaissent l'histoire par cœur. Rose Écarlate, derrière, la suit, contrainte de courir en criant. Blanche-Neige dit qu'elle a peur. Blanche-Neige dit en courant « Oh mes aïeux, je me jette à vos sacrés genoux !» Rose Écarlate rit. Elle rit tellement qu'elle tombe, qu'elle se met en colère pour finir. Hurlant de rage, Rose Écarlate poursuit Blanche-Neige avec un bâton, menaçant de l'assommer si elle ne s'arrête. Blanche-Neige, plus blanche que la soie blanche de sa tunique, se laisse tomber au pied d'un arbre. C'est alors que Rose Écarlate, rouge comme une pivoine ou bien rouge comme une rose rouge, va et vient avec fureur devant elle, en frappant la terre de son bâton, en criant « Tu n'en as pas, tu n'en as pas !» Blanche-Neige tourne la tête à droite pour voir passer Rose Écarlate, puis à gauche pour la voir repasser, tandis qu'elle répète de plus en plus fort « Tu n'en as pas, tu n'en as pas !» Si bien que pour finir, Blanche-Neige demande « Qu'est-ce que je n'ai pas ?» Ce qui a pour effet d'immobiliser Rose Écarlate, disant « Des sacrés aïeux, tu n'en as pas !» Blanche-Neige dit qu'elle veut bien s'en passer, d'autant plus qu'elle n'a plus peur du tout en s'emparant d'un bâton. Elle se met à courir de tous côtés. On peut la voir cogner de toutes ses forces contre les troncs des arbres, cinglant les souples arbustes, frappant les racines moussues. À un moment donné, elle donne un grand coup de bâton à Rose Écarlate endormie au pied d'un chêne et ressemblant à une grosse racine. Elles, corps intègres premiers principaux, s'avancent en marchant ensemble dans un autre monde. On dirait une armée de géantes.
Qu'il y a en cette plaine, et dès que Black Mamba les vit, elle dit à son écuyère : La fortune conduit nos affaires mieux que nous l'eussions su désirer, car voilà, amie Marilyn de la Croix, où se découvrent 30 ou quelque peu plus démesurées géantes, avec lesquelles je pense avoir combat et leur ôter la vie à toutes. Et de leurs dépouilles, nous commencerons à nous enrichir, car c'est ici une bonne guerre. Et c'est faire grand service à Ève que d'ôter une si mauvaise semence de dessus la face de la terre. Quelle géante, dit Marilyn. Celle que tu vois là, répondit sa maîtresse, au long bras et d'aucune raison quelquefois de 2 lieues. Regardez, madame, répondit Marilyn, que celles qui paraissent là ne sont pas des géantes, mais des moulins à vent. Et ce qui semble des bras sont leurs ailes, lesquelles, tournées par le vent, font mouvoir la pierre du moulin. Il paraît bien, répondit Black Mamba, que tu n'es pas fort versé en ce qui est des aventures. Ce sont des géantes, et si tu as peur, ôte-toi de là et mets-toi en oraison, tandis que je vais entrer avec elles en une furieuse et inégale bataille. Et disant cela, elle donna des éperons à sa jument Rosinante, sans s'amuser aux cris que son écuyère Marilyn faisait, l'avertissant que, sans aucun doute, c'était des moulins à vent et non pas des géantes qu'elle allait attaquer. Mais elle était tellement heurtée à cela que c'était des géantes qu'elle n'entendait pas les cris de son écuyère Marilyn, ni ne s'apercevait pas de ce que c'était, encore qu'elle en fût bien près. Au contraire, elle disait à voix haute : Ne fuyez pas, couards des villes créatures ! car c'est une seule guerrière qui vous attaque. » Sur cela, il se leva un peu de vent, et les grandes ailes de ses moulins commencèrent à se mouvoir. Ce que, voyant Black Mamba, elle dit « Vous pourriez mouvoir plus de bras que ceux de la géante Briaré, mais vous me le payez. » Et, disant cela, elle se recommanda de tout son cœur à son chat Dulciné, lui demandant qu'il la secourût en ce danger. Puis, bien couvert de sa rondache, elle accourut au grand galop de Rosinante, donné dans le premier moulin qui était devant elle, et lui porta un coup de lance en l'aile. Le vent la fit tourner avec une telle violence qu'elle mit la lance en pièces.
Nous dansons, car après tout, c'est ce pourquoi nous nous battons. Pour que continue, pour que l'emporte, cette vie, ces corps, ces seins, ces ventres, cette odeur de la chair, cette joie, cette liberté. Se nommer sorcière, c'est tout à la fois s'identifier aux victimes qu'on fait de tout temps la misogynie et la persécution religieuse, et rendre aux femmes le droit d'être fortes, puissantes et même dangereuses. Toutes insistent sur ce qu'une telle religion a eu d'extraordinairement émancipateur pour leur estime d'elles-mêmes, pour réévaluer leur corps comme quelque chose qui compte, pour s'autoriser à penser, à expérimenter une forme de pouvoir. Prendre part au mouvement d'action directe non violente pour la paix, au mouvement altermondialiste ensuite, comme au mouvement de lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui, constitue autant de façons de pratiquer la magie. Cet art de la transformation, comme l'appellent Stengers et Pignard, est un art de transformation de soi et du monde, passant notamment par le langage, se pratiquant à plusieurs et au moyen de rituels. Le premier acte de magie de ces écoféministes néo-païennes fut de créer, au sein de ces mobilisations, des espaces, des cercles dans lesquels puisse se dire publiquement cette peur. Le fait même de la faire exister collectivement transforme cette émotion personnelle, incapacitante, en un problème politique, mais donc immédiatement aussi en une source possible d'émancipation collective. C'est ce que veut dire rêver l'obscur. Laisser monter, affronter l'obscur ensemble pour ne pas être dévoré par lui. Nommer la peur. Nommer ce qui rend chacun chacune d'entre nous impuissante. Puis nommer ce qui nous rend puissante est un acte de magie et un acte politique. Il n'y a rien de plus sérieux aujourd'hui que de devenir capable, à notre tour, d'inventer collectivement des dispositifs qui nous protègent à la fois du désespoir et du cynisme, comme des paroles qui suspendent le cours habituel des choses et recréent du possible. Le premier acte de magie des écoféministes sorcières consiste à nommer ce qui fait peur, ce qui rend impuissante. Le second consiste à nommer ce qui rend puissante, nommer ce que l'on souhaite à la place. C'est ce que Starhawk appelle créer une vision. Nous faisons de la magie en visualisant ce que nous voulons créer. Préface d'Emily H.
c'est un moment donné, il faut se dire, voilà. C'est, pas, c'est du passé, voilà. On ne peut pas... des fois, oui, je pleure, mais, et des fois, je gagne rien du tout. Hein. Je suis mal, je suis triste, puis voilà.
Prologue, rêver l'obscur. Ce livre tente de relier le spirituel et le politique, ou plutôt d'accéder à un espace au sein duquel cette séparation n'existe pas, où les histoires de dualité que nous raconte notre culture ne nous vouent plus à répéter les mêmes vieux scénarios. Cet espace est obscur et à moitié oublié, mais en lui réside un pouvoir qui s'oppose au principe de domination sur lequel est basée notre société. Ce livre a pour premier sujet le pouvoir. Il parle des différences entre le pouvoir sur et le pouvoir du dedans. Bien que ce parcours se fasse dans l'obscurité, il s'agit aussi de vision et d'action, c'est-à-dire de magie, de l'art de faire appel au pouvoir du dedans et de l'utiliser pour nous transformer, pour transformer notre communauté et notre culture. De l'utiliser pour résister à la destruction à laquelle ceux qui détiennent le pouvoir sûr sont en train de vouer le monde. Mais si tu racontes l'horreur sans recréer l'obscur, tu l'alimentes, tu ne supprimes pas son terreau. Nous devons rêver l'obscur comme processus, rêver l'obscur comme changement, afin de créer une nouvelle image de l'obscur, car l'obscur nous crée. L'obscur, tout ce dont nous avons peur, tout ce que nous ne voulons pas voir. La peur, la colère, le sexe, la douleur. La mort, l'inconnu. Le devenir obscur, le changement. La question de l'obscur est devenue un voyage. Comment affrontons-nous l'obscur, nous qui sommes au bord de l'anéantissement? Comment trouvons-nous l'obscur en nous? Comment le transformons-nous? Comment le possédons-nous comme notre propre pouvoir? Que pouvons-nous faire et comment ? Censé pour aucun homme de s'attaquer à sa chair. Ainsi, de chaque blessure qui lui sera faite naîtra une fleur dont la sève guérisseuse cicatrisera son cœur. Et dans chaque braconnier pourrira une racine nécrosante jusqu'à ce qu'une patte noire et puante exorbite ses yeux. Des vautours et des asticots mangeront ainsi ses restes. C'est le cycle de la nature, tu comprends ? Alors, prends ce pelage de louve et enveloppe-toi dedans. Laisse-le se confondre avec ta peau. Et l'eau, la terre, le feu et le vent ne quitteront plus tes racines.
Il faut que cet ordre soit rompu. protégé de moi, je ne suis pas protégé de toi. Ta réalité me traverse même si on ne se regarde pas, même si on ne baise pas, même si je ne vis pas sous ton toit. Nous sommes en contact permanent. Par une main divine qui ne se trompe jamais, alors qu'elles sont juste gribouillées au hasard par des cons, et j'en ai marre de croire en des choses qui ne me servent à rien. We'll be right back. sépare de la merde qui m'entoure. Rien, tout, rien, sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle, matière molle. Que ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain, et qu'il n'est pas encore écrit que cela soit une mauvaise chose.
Entends-tu au loin ce qui arrive ? La rumeur grandit. Ce sont les sœurs, les adelphes des tigres, les géantes. Elles se dressent et appellent. Ça va recommencer. Ça ne s'arrêtera pas. Il faut que cet ordre soit rompu.
C'était Quartier Libre, une proposition dédiée à la création sonore et aux écoutes expérimentales, imaginée par Audrey Bercier et Maxine Reiss, sous l'impulsion de Radio Vostok. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle pépite sonore.
D'ici là, prenez soin de vous.